RMC 100% route, midi 14h, le prologue.
Simon Dutin.
Salut tout le monde, bienvenue dans le dernier prologue de ce Tour 2023 sur RMC Digital. Votre rendez-vous, celui qui vous a accompagné chaque jour durant les trois semaines de ce Tour de France. On boucle la grande boucle, une 110e édition qu'on s'est régalé à suivre avec toute l'équipe de la rédaction RMC Sport. Avant cette 21e et dernière étape, arrivée sur les Champs-Élysées, bien sûr, on est ensemble jusqu'à 16h pour faire le bilan calmement de ce qui est déjà un grand millésime. Avec moi, pour vous accompagner les auditeurs et jeter un coup d'œil dans le rétroviseur, Pierre Amiche. Salut Pierrot.
Salut Simon, bonjour à tous.
Ludovic Duchesne.
Salut. Bonjour Ludo. À tous.
Johan Bredov.
Salut les amis, salut à tous.
Ah là là, quel plaisir et en même temps un petit peu de tristesse les copains, c'est la dernière. Bon, et on a réuni tout le monde, on a mis les petits plats dans les grands, les grands dans les plus grands. Puisqu'à 15h, Jérôme Pilot, notre consultant de la Dream Team, nous rejoindra. Et d'ici là, on vous attend, les auditeurs, le 32-16, touche 9. Venez partager avec nous les meilleurs moments de ce Tour 2023. 2 heures pour échanger tous ensemble. Nos souvenirs au programme après un retour sur le Pinaudet hier et la victoire de Tadej Pogacar au Markstein. Toutes vos rubriques habituelles, mais version bilan, vous l'avez compris, les j'ai aimé, j'ai pas aimé de l'équipe du Prologue RMC, le baromètre des Français. On va expertiser un petit peu la course, les trois semaines de nos coureurs tricolores. Et puis, les coureurs du peloton qui ont le plus déçu les membres de notre team lors de cette édition. Le profil de cette étape toujours aussi particulière, le dernier édito de Pinot en connaît un rayon. Bredov dans la roue d'un coureur à suivre aujourd'hui. Et les pronos, évidemment. Mais avant tout cela, je vous le disais, comme d'habitude dans le prologue, on ne change pas les habitudes, c'est pas parce que c'est le dernier jour. Retour sur l'étape d'hier, la 20e avant-dernière de ce tour, qu'on avait rebaptisé le Pinot Day. Si vous n'étiez pas à l'écoute de RMC, voici ce que vous avez raté.
Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour l'avant-dernière fois sur les routes du Tour de France 2023. Aujourd'hui, eh bien, nous sommes dans les Vosges avec cette terrible étape et l'arrivée tout à l'heure au Markstein.
Il y a tout un cérémonial aujourd'hui autour de la dernière grande étape de montagne de Thibaut Pinot qui en plus se déroule chez lui à quelques kilomètres de Mélisée. C'est vrai que depuis le départ de cette étape, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de supporters de Thibaut Pinot.
Et justement, Thibaut Pinot qui sort du groupe Maillot Jaune actuellement. On sait qu'il y a déjà Valentin Madouas et qui est placé à l'avant. Il y a également Stephen Kung.
Et il va y en avoir des émotions puisque Thibaut Pinot est à l'attaque. Il vient de lâcher Yohan Izaguirre et il vient malheureusement de lâcher Stephen Kung, mais aussi Valentin Madouas. Il n'y a pas grand monde qui arrive à réagir avec lui dans ce groupe de contre actuellement.
Il arrive, il n'est plus qu'à 5-6 secondes derrière le groupe de tête, derrière Ciccone. Thibaut Pinot follement encouragé par beaucoup de monde évidemment.
Ouais, alors là, les voitures et les motos, attention. Il va falloir se ranger. Ouais. Hein, c'est le
rendez-vous.
Cas. C'est bon, il est
rendez-vous,
pas gêné.
C'est le du jour, il arrive, Thibaut Pinot, follement encouragé dans les derniers hectomètres de ce col de la Croix des Moines. Il est en train de faire la jonction, jonction effectuée par le héros des foules vosgiennes aujourd'hui.
Et il a décidé de partir tout seul, personne n'arrive à le suivre, ni Pidcock, ni Barguil, sauf un homme, le champion de France, Valentin Madouas, son coéquipier qui est dans sa roue. Et maintenant, eh bien, Thibaut Pinot va être acclamé par tout le monde dans ce petit ballon, puisque tous ses supporters sont là, un peu plus haut. Et lui, il veut une chose peut-être, c'est passer devant ses supporters en étant seul ou alors avec le champion de France qui est en train de lâcher encore 5 km dans cette ascension, 30 km à parcourir et Thibaut Pinot part tout seul.
Thibaut Pinot qui passe à 2 km du sommet et là encore une fois énormément de monde, c'est la foule des grands jours, ce n'est pas l'Alpe d'Huez, c'est l'Alpe Pinot aujourd'hui en direction du Markstein. Merci Thibaut, il y a des pancartes un peu partout. Thibaut, t'es beau, Thibaut, t'es magnifique aujourd'hui, il est extraordinaire ce Thibaut Pinot aujourd'hui.
Il est grand, il est très grand Thibaut Pinot aujourd'hui, il va peut-être aller réussir un exploit incroyable. Là c'est l'Alpe d'Huez cette fois, le petit ballon s'est transformé en Alpe d'Huez, ils sont tous là, ses supporters, les supporters de Thibaut Pinot pour la dernière grande journée du champion français qui est en train de dessiner l'histoire une nouvelle fois, une dernière fois. Il y a du monde partout pour l'encourager, il lui reste encore 1,7 km dans cette montée du petit ballon. Il est en train de creuser encore l'écart avec Pidcock, 1,23 avec le peloton. Allez, faut y aller mon petit, il y a peut-être dans 27 km maintenant.
Oui, non, je disais, ils sont juste derrière, hein, le trio Pogacar, Vingegaard et Gall qui a en visu, ils sont à 20 mètres derrière, donc vraiment, s'ils rentrent pas, c'est qu'ils l'auront fait exprès. Thibaut Pinot qui lui se plaçait gentiment en troisième position de ce groupe de tête qui essayait de reprendre un petit peu son souffle.
Le geste de Warren Barguil qui vient poser sa main sur le dos de Thibaut Pinot. Ils ont vu que les monstres étaient derrière, ils ont vu que Pogacar avec son maillot blanc et que Vingegaard avec son maillot jaune étaient en train de revenir et les deux hommes ont certainement compris compris que ça allait être très compliqué désormais pour une victoire d'étape après tous les efforts effectués. Les deux premiers du classement général qui vont s'expliquer pour la victoire d'étape. Pogacar est plus fort. Pogacar est-il le vainqueur aujourd'hui de l'étape? Mais le deuxième du Tour de France, c'est Pogacar qui s'impose ici au Marstein et qui peut crier. Deuxième place pour Félix Gall. Troisième Vingegaard. Quatrième Simon Yates.
Voilà, Pogacar qui a l'orgueil aujourd'hui, remporte cette étape. Il avait peut-être pas les meilleures jambes aujourd'hui, mais il a su rester dans la roue de Vingegaard pour aller lui sauter dans la roue et s'imposer ici au Marstein. On va attendre l'arrivée de Thibaut Pinot qui va arriver.
Mais voilà, mais voilà, ils sont en train de passer le groupe de 3 et puis ensuite il y aura le groupe avec Jay Hindley. Allez, le sprint pour Thibaut Pinot. Un dernier effort, Thibaut derrière Warren Barguil, derrière Peyo Bilbao. C'est Warren Barguil qui va passer la ligne juste devant Thibaut Pinot qui vient chercher une belle place d'honneur aujourd'hui. Il aura fait le spectacle, il aura été grand, mais pas assez grand pour aller chercher la victoire d'étape.
RMC 100% route, le prologue.
Évidemment, vous avez noté la référence. Il a été grand, évidemment, les mots légendaires de Marc Madiot à propos de son coureur. Marc Madiot, que vous entendrez évidemment dans un instant. Thibaut Pinot également, mais tous les poids lourds de ce Tour de France 2023 qui étaient présents à l'arrivée, dont Thibaut Pinot. Retour évidemment sur le Pinot des dans un instant. Tenez, j'en profite pour signaler aux auditeurs qu'un Tour de France chasse un autre, puisque aujourd'hui, départ du Tour de France féminin, la première des 8 étapes de cette édition 2023, elle est en cours. On est à mi-course, une boucle Clermont-Ferrand, on est à mi-course, 124 km, messieurs, quelqu'un...
C'est plutôt calme pour l'instant, oui, sur voilà, le Tour de France, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est un peloton groupé qui va certainement attendre un sprint pour connaître la première porteuse du maillot jaune de leader de cette Tour de France.
Et on a beaucoup d'espoir sur les Françaises. Là, c'est des espoirs sérieux de podium. Hein. C'est, voilà, c'est pas comme, comme sur le tour masculin. Avec Juliette Labousse, qui a fait 4 l'année dernière, qui a fait 2e du Giro et qui a une vraie chance de terminer sur le podium. En tout cas, c'est tout le mal qu'on lui souhaite.
Ce Tour de France féminin 2023, dont vous ne manquerez rien également sur l'antenne de RMC. Comme d'habitude, messieurs, dans le prologue RMC, et pour la dernière fois de ce Tour 2023, vos j'ai aimé, j'ai pas aimé sur l'étape d'hier. On commence avec toi, Ludo. J'ai aimé.
Sur l'étape d'hier, qu'est-ce que j'ai aimé? Je pensais.
Je l'ai pris par surprise.
Dans le traquenard. Ah ben, écoute, il est sur la jambe vite pour la fin du tour.
Désolé, on garde toutes nos rubriques.
C'est assez facile. Ah, c'est assez facile sur l'étape d'hier. Non, parce qu'en fait, pour expliquer à nos auditeurs,
on a jamais autant travaillé.
On a fait un petit questionnaire et je pensais qu'on parlait de l'ensemble du tour.
Ah, mais on va donc faire j'ai aimé, j'ai pas aimé sur l'ensemble du tour.
Donc je suis battu. Non, ce que j'ai aimé, bah, je vais pas être original. J'ai aimé Thibaut Pinot, voilà, tout simplement. Son panache, sa manière de courir, ses supporters, l'ambiance. C'était fou et surtout ce que j'aimais c'est que on peut supporter son coureur, on peut mettre une ambiance de fou et on peut faire les choses bien, ça s'est super bien passé donc c'était génial.
Avec ce virage Pinot, le CUP, le collectif Ultra Pinot et ces images de l'ascension en solitaire de Pinot alors qu'il est encore en tête dans le col du Petit Ballon. Et je pense qu'il s'en souviendra toute sa vie. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé ?
Eh bien, du coup, de mémoire, j'ai pas aimé Félix Gall, qui, dans la dernière montée, emmène Vingegaard et Pogacar. Et ça fait partie des quelques interrogations de ce tour. Il y en a eu plusieurs. Et souvent, c'était des courses d'équipe. On n'a pas trop compris ce que certaines équipes faisaient. Mais j'avoue que j'aimerais bien qu'un jour, il nous explique ce qu'il a voulu faire.
Messieurs, Johan, Pierre, il y en a un qui a un indice. Il a voulu faire quoi ? Il se croyait assez fort pour rentrer sur Pinot et gagner l'étape,
bah, je pense que c'est ça, ouais. Mais on se croire assez fort. Je veux bien qu'il soit fort en troisième semaine, Félix Gall, mais dans sa roue, quand t'as Vingegaard et Pogacar, je pense que n'importe quel coureur du peloton ne roule pas.
Surtout Pogacar, là, je veux dire, faut être sérieux. Il avait 0% de chance, c'est ce qui s'est passé.
Oui, exactement, il fait deuxième, il a aucune chance de gagner cette étape. Zéro. Il roule, il revient sur Pinot. On croirait que c'est presque personnel. Il ne voulait absolument pas que Thibaut Pinot gagne. Bon, Thibaut Pinot n'aurait certainement pas gagné avec les deux autres qui étaient dans la roue, mais j'avoue, c'était incompréhensible ce qu'a fait Félix Gall hier. En plus, il ne joue pas les points de la montagne. On s'attendait à un duel avec Ciccone. Il ne les joue pas. Il veut jouer la victoire d'étape. Bah, c'était la pire façon. Cette étape est ratée pour Félix Gall, en fait.
Pierrot, ça t'a agacé également
Oui, c'est un euphémisme. Bah, j'avais déjà eu la chance de,
j'ai
de
cassé
mettre
la
en
télé,
avant.
Quoi,
mais bon. Non, mais j'avais déjà mis en avant les faiblesses tactiques de AG2R, parce qu'ils finalement ne font reposer le succès de leur tour que sur un homme, Félix Gall, qui tactiquement a montré qu'il avait aussi quelques limites. Hier, il a l'occasion d'aller gagner, mais en faisant tout sauf ça. Ouais, c'est-à-dire qu'en faisant comme il a fait, en emmenant, parce qu'il a amené sur un plateau Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar, il avait 0% de chance de gagner, vous l'avez dit. Et puis, ce n'est pas le seul qui, tactiquement, s'est trompé dans cette équipe. Hein. On pense à l'étape où ils ont défendu la 16e place de Félix Gall, alors qu'il était très costaud. Je veux dire, il n'y avait pas besoin de ça pour déjà protéger les meilleures équipes. La Jumbo et UAE, ils ont eu une journée gratuite. Et on a bien vu qu'ils n'avaient pas besoin de ça pour mettre au supplice le peloton. Et puis la deuxième chose, c'est que Félix Gall était suffisamment costaud pour aller chercher un top 10 tout seul, sans forcément rouler de cette manière-là. Donc oui, ça fait partie aussi des « j'ai pas aimé ». J'ai pas aimé Félix Gall, j'ai pas aimé non plus Vingegaard qui... la prochaine fois, il se fait directement installer des rétroviseurs sur sa bicyclette. Ça lui fera gagner du temps. Il a passé les trois quarts de la dernière montée à se retourner pour voir ce que Pogacar faisait. T'as 7 minutes 40 d'avance, gros. Franchement, allez, soit t'attaques, soit tu le laisses partir. Mais se mettre devant et se retourner toutes les 6 secondes, ça donne pas une très bonne image du maillot jaune, en fait. Et c'est dingue.
C'est trop ce que tu dis.
Non, mais c'est vrai.
C'est dire ça. C'est la course, ça. Attends, mais. Pierre,
non, c'est pas la course. Si t'es plus fort, t'attaques. Si t'es moins fort, tu te mets dans la roue. Mais se mettre devant et se retourner toutes les 10 secondes.
Ah, c'est la course.
Ah, c'était quoi pour, c'était pour montrer les muscles, pour lui dire.
Non, écoute, il craint de quoi ? Il a 7 minutes 40 d'avance. Même s'il finit à pied, il est quand même devant
il
à Paris.
Il a pas envie de se faire larguer.
Je veux dire, il n'a rien à perdre.
Rappelle-toi qu'en début de tour, il s'est fait surprendre. Donc, et plusieurs fois. Donc je pense qu'il est traumatisé, il le craint. Et Pogacar.
Et donc à Paris, il n'aurait pas pu gagner. Donc à Paris, le maillot jaune était en jeu la dernière montée.
Mais il a envie d'arriver au moins avec lui. Il a une chance de gagner l'étape. Si Pogacar s'en va, il faut faire un effort ultime.
Il a zéro chance
Vingegaard,
de gagner.
Vingegaard, c'est comme Félix Gall, il a zéro chance de gagner contre Tadej Pogacar au sprint.
T'as raison, mais un peu plus quand même.
Zéro, il arrive derrière Félix Gall en plus. Il n'a aucune chance de gagner face à Pogacar. S'il veut gagner cette étape, Jonas Vingegaard, il doit attaquer. Et s'il attaque et qu'il se fait contrer, c'est pas grave. De toute façon, il ne perdra jamais 7 minutes.
Pardon, moi je veux bien le Vingegaard bashing, on en entend tous les jours.
Maître Duchesne, meilleur avocat de Jonas Vingegaard.
Non, mais c'est vrai que ça me fatigue parce qu'on le critique pour tout et n'importe quoi. Et là, on le critique parce qu'il se retourne. Je ne comprends même pas le principe.
Il n'y a pas de petit vainqueur du Tour de France, Valkoviak compris. Il n'y a que des grands vainqueurs, mais il n'y a pas que des beaux vainqueurs. Et je suis désolé, Jonas Vingegaard, je n'aime pas son style. J'aime pas son style de petit comptable sur le vélo. J'aime pas sa manière de concevoir la course qui est il ne vaut mieux pas perdre que gagner. Ça me saoule, en fait, c'est personnel. J'ai pas forcément raison, mais c'est pas du Vingegaard bashing. J'ai rien contre lui. Non, j'ai rien contre lui. Je suis sûr qu'il est très sympa. Je veux dire, c'est pas ce qu'il dégage. Il dégage pas quelqu'un de rayonnant et de. Mais c'est lui. Je ne peux pas lui en vouloir pour sa personnalité. En revanche, sa manière de courir, celle de la Jumbo, on peut pas cautionner le fait que le maillot jaune n'attaque jamais, regarde son adversaire en permanence, y compris quand il a près de 8 minutes d'avance dans le dernier col de la dernière étape du Tour de France. Enfin, c'est pas ça que j'ai envie de voir. Après, peut-être qu'il est cramé, peut-être que 3 semaines c'est long, peut-être qu'il n'avait pas les moyens d'attaquer. Il y a plein d'explications possibles, mais c'est pas simplement du bashing. Il y a vraiment, pour moi, un problème d'image aussi. Le maillot jaune qui ne gagne pas, c'est tout de même assez rare.
Il a gagné.
Oui, sur le contre-la-montre. Ouais, mais
ça compte, non ?
Tu penses vraiment que gagner le contre-la-montre, c'est la même chose que gagner une étape en ligne ? Moi, je trouve pas.
En tout cas, c'est une victoire d'étape. Et ça sera comptabilisé comme une victoire d'étape.
Mais tu ne bats pas les autres sur une arrivée au sprint, tu lèves les bras à l'arrivée.
Parce qu'il y a Pogacar et que
cette image-là
c'est
aussi.
Très compliqué de lever les bras quand tu es avec lui. Et à chaque fois que ça a été dur, ils étaient tous les deux. Et 9 fois sur 10, c'est le Slovène qui gagne. Mais la manière dont il a gagné ce contre-la-montre, je pense que c'est une vraie victoire.
Bon, on l'a compris, Vingegaard-Pogacar, le clivage n'a pas fini de diviser nos spécialistes et les amoureux de vélo. Pierrot, il y a forcément des choses que tu as appréciées hier.
Ouais, il y en a une, c'est l'union sacrée. C'est le fait que dans la montée, Thibaut Pinot a été aidé par les autres équipes. On a vu la Cofidis lui filer des bidons, on a vu Warren Barguil qui est venu lui glisser un mot. Je suis pas dans l'intimité des dieux, hein, mais à mon avis, il lui a dit « Écoute, je suis ton équipier aujourd'hui ».
Ouais.
Et d'ailleurs, on l'a vu parce qu'il a refusé de rouler avec Thomas Pidcock au moment où les deux pouvaient revenir sur Thibaut. Il l'a dit à l'arrivée, d'ailleurs, Warren Barguil a dit « Je refusais d'être celui qui revenait, Pinot, qui roulait sur Pinot ». J'ai trouvé ça super, j'ai trouvé ça très touchant aussi, cette union, cette ambiance. Depuis le matin, au final, depuis les premières interviews et les premiers mots de Marc Madio jusqu'à l'après-course, l'interview de Thibaut Pinot, c'était très émouvant. J'ai été pris par l'émotion globale, pas simplement celle de la dernière montée de Thibaut Pinot. Il y avait un contexte global que j'ai trouvé très touchant.
Et c'est vrai que Warren Barguil, on l'a vu, tapoter l'épaule de Pinot, lui glisser effectivement un mot, se retourner une des premières fois où Pinot est lâché. On sent que Barguil peut suivre les mecs qui partent et il regarde où est Pinot pour jauger un petit peu, est-ce que ça vaut le coup que je l'attende ou pas. Effectivement, on aime voir ça et ça a dû faire chaud au cœur à Thibaut Pinot.
Il a quand même réglé au sprint pour passer devant lui.
Oui,
il y a la course quand même, mais non, mais c'était incroyable ce qu'a fait Warren Barguil, il faut le saluer.
C'était
parce
beau,
que, bah, il le disait, et Ludo, on en parlait hier, c'est une de ses idoles. Thibaut Pinot, il doit être très pote avec lui. Il l'a dit après en interview, les discussions derrière, en arrière du peloton vont lui manquer avec Thibaut Pinot. Voilà, c'est deux des plus grands grimpeurs de ces 15 dernières années en France. Ils ont souvent été ensemble, souvent ils ont participé aux mêmes échappées. Et voilà, c'était également émouvant pour tous les coureurs de ce tour, pas seulement les spectateurs, mais aussi pour les coureurs français, dont Warren Barguil faisait partie.
Tu gardes la main, Johan,
j'ai aimé. Bon, on a parlé de quasiment tout. Moi, je vais revenir sur Carlos Rodriguez et Sepp Kuss.
Ah oui.
Parce que quand même,
les boxeurs,
les deux se sont ouverts l'arcade. La même chute pour les deux. Carlos Rodriguez qui a perdu une place au général. Ça lui était déjà arrivé sur la Volta, une chute comme ça dans les dernières étapes. Il a été extrêmement courageux. Sepp Kuss, c'est pire encore parce qu'il perd 20 minutes, il perd le top 10, ça aurait été son premier top 10 sur le Tour de France. Donc voilà, il faut saluer le courage de ces deux hommes.
Ils ont tapé très fort.
Ils sont arrivés le visage en sang tous les deux. Donc voilà, je voulais juste saluer le courage de ces deux hommes, mais aussi de tous les coureurs du peloton, évidemment. On pense à des Adrien Petit aussi qui ont chuté et qui ont réussi à terminer les étapes et à terminer le Tour. Donc voilà, je pense qu'il fallait récompenser Carlos Rodriguez et Sepp Kuss, leur courage en tout cas.
Kuss qui va donc terminer derrière Thibaut Pinot au général.
Et ça met deux Français dans le top 10.
Et
Thibaut Pinot qui fait top 11. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la référence, c'était Tony Galopin qui lui avait dit ça au championnat du monde. Il avait dit, moi sur la Vuelta, j'ai fait top 11. Vu qu'il a fini 11e. Donc Thibaut Pinot, clin d'œil du destin, qui va faire top 11 sur le Tour de France.
C'est beau en plus. C'est un sacré classement.
Qu'est-ce que tu n'as pas aimé, Johan?
Moi, j'ai pas aimé. J'ai deux Français. Déjà, l'abandon de Victor Laffey, parce que abandonner la veille de l'arrivée, quand même, c'est extrêmement dur. Le pauvre, il était pas bien depuis sa chute au contre-la-montre. Et une autre chute aussi, c'est celle de David Godu, qui chute tout seul. Il est en train de remettre son oreillette. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire, alors qu'il y a un virage dangereux sur la droite. Mm-hmm. Et il chute. Et il aurait pu tout perdre, en fait, David Godu. Heureusement qu'il avait de l'avance.
Tu veux dire sa 9e place.
Et voilà, il aurait pu perdre sa 9e place. Il aurait pu perdre le top 10.
Si c'était grave.
Ouais, mais comme Sepp Kuss. Mais oui, mais dans ce cas-là, quand tu vises le podium, et qu'en plus tu finis pas dans le top 10 parce que ouais, tu chutes sur la dernière étape de montagne, c'est quand même compliqué. Donc, je ne sais pas ce qui est arrivé à David Godu. Peut-être qu'il était pris par l'émotion avec Thibaut Pinot, je ne sais pas, mais voilà, saute de concentration au pire moment, il aurait pu tout perdre. Heureusement, c'est sans conséquence.
Il s'est en effet passé énormément de choses hier lors de cette 20e et avant-dernière étape du Tour de France. C'était les j'ai aimé, j'ai pas aimé, comme chaque jour durant ce tour à propos de l'étape d'hier. Je rappelle, je le disais en sommaire, qu'il y aura vos j'ai aimé, j'ai pas aimé sur l'ensemble de ce tour quand on abordera le bilan tout à l'heure. Je rappelle que Jérôme Pinot, notre consultant, nous rejoindra à partir de 15h. Et puis, tu parlais des Français, Laffey, Godu, on a parlé de Pinot. Pinot, on va en parler dans un instant. Et vous aurez un baromètre, évidemment, des Français, mais sur l'échelle des 3 semaines du Tour. Et ce top 11, tu le rappelais, Pierrot, de Thibaut Pinot, dont on parle dans un instant. On va se faire plaisir, on va se retourner une nouvelle fois sur ce Pinot Day. Et cette échappée de Thibaut Pinot, inaboutie, mais qu'elle fut belle. A tout de suite dans le prologue RMC.
RMC 100% route, le prologue.
À 14h19, votre rendez-vous, le prologue, comme chaque jour durant ce Tour de France, horaire un petit peu décalé, puisque l'arrivée sur les Champs-Élysées est traditionnellement, désormais, à la demande des organisateurs, un petit peu tardive. Voilà, il n'y aura pas de coucher de soleil dans l'Arc de Triomphe, enfin,
parce qu'il n'y a pas de soleil.
Forcément, évidemment, la seule étape à Paris, sous la pluie. On précise qu'on retrouvera peut-être les copains, nous, tout à l'heure. Ils sont contents, les copains, les confrères, qui sont contents, eux aussi, d'arriver à Paris. 14h20, je vous le disais, on est ensemble en direct jusqu'à 16h avec la fine fleur de la rédaction RMC Sport, Johan Bredov, Ludovic Duchesne et Pierre Amiche. Avant de faire le bilan tous ensemble de ce Tour de France 2023, je vous rappelle que les auditeurs, on vous attend au 32-16, touche 9, vous venez échanger vos impressions.
Les pronos.
Voilà, les pronos. C'est en fin d'émission. Là, j'entends des choses dans mon casque. Voilà, écoutez.
C'est pour te déstabiliser.
Non, mais la machine aussi, hein, elle a fait 3 semaines, 21e étape. Pour la machine aussi, c'est la 21e. 21e étape, elle est contente hein, qu'on arrive à Paris. Il va falloir débrancher tout ça et la laisser un petit peu refroidir. On le disait hier, Thibaut Pinot était sur ses terres vosgiennes. On l'annonçait à l'attaque, il y est allé, il ne s'est pas caché, il a failli l'emporter ou pas, j'en sais rien, on va l'écouter à l'arrivée évidemment, très ému et très content, il avait passé une belle journée malgré tout.
Ouais, c'était une riche journée, une belle journée, pour moi ça restera une journée gravée, il n'y a pas la victoire au bout mais en tout cas je pense que cette étape résume bien ma carrière, de l'envie et voilà, franchir le col du petit ballon ce matin, on m'aurait dit ça, j'aurais jamais cru d'être tout seul en tête. Il fallait que je fasse ça pour gagner parce que je savais que derrière c'était quand même très proche. UAE nous a jamais laissé beaucoup de champ, donc il n'y avait pas de temps à perdre. C'était juste incroyable, c'était que des frissons. Je savais que le public était là pour moi, donc si je pouvais les remercier, en plus je les ai remerciés comme ça de passer tout seul en tête. Donc ouais, je pense qu'ils ont. J'ai vécu des grands moments, mais je pense qu'eux aussi. Et voilà, moi on a vu aujourd'hui que j'avais le plus beau public de France. Ouais, c'est un moment particulier, c'est pas une victoire parce que les émotions d'une victoire restent particulières, mais celle-là elle est au-delà du sport. Je pense que je laisse une trace et dans le cœur des gens, de mes supporters, et ça c'est plus beau qu'une victoire. Bah, ça m'a surpris forcément parce que j'ai du mal à me rendre compte que c'est pour moi au final. Donc c'était grandiose à vivre. Mais après, on parle du petit ballon, mais il y avait du monde partout. C'était juste incroyable de voir ça. Donc sur mes routes d'entraînement, que je connais absolument par cœur, c'était même me retrouver ici, là, c'est sur un de mes endroits préférés d'entraînement, c'est juste fou. Ouais.
Thibaut Pinot, très ému hier au micro de Kevin Morand, Pierrot.
Oui, il a fendu l'armure que trois fois. La première fois, c'est au micro juste après l'arrivée, où Marc Madio interrompt l'interview, vient le prendre dans ses bras. Et là, il dit c'est très dur, et on voit les larmes monter. Une deuxième fois, quand il évoque son père, parce que son père était à l'arrivée, et quand il en parle de nouveau, les larmes montent. Et puis une troisième fois en zone mixte, toujours au micro d'RMC, où cette fois, il a les larmes quand il explique et quand il évoque l'idée que ça s'est fait sur ses routes, celles qu'il connaît par cœur, ses routes d'entraînement. Mais étrangement, à aucun moment, quand il annonce la fin, parce que déjà, il l'a choisi. Il a vécu un bon moment, et parce que je crois que le cyclisme professionnel, il est plus fait pour ça. Et donc, c'est presque un soulagement. Et d'ailleurs, il l'a dit sur Twitter avec un petit clin d'œil quand il a répondu à la Fédération française de la Loose, qui a participé aux animations dans le virage Pinot. Et il a dit l'année prochaine, je serai avec vous. Donc on sent que la page est déjà tournée.
Oui, alors que dans un premier temps, effectivement, il est interrogé. Et on lui dit, l'an prochain, c'est sûr. Et il dit, je reviendrai peut-être sur le Tour, mais je pense que je serai dans le virage. Il dit, alors effectivement, on s'est dit, et pourquoi pas, parce que, en tout cas, on a eu le même fol espoir que notre ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui s'est fendue d'un tweet, enfin d'un retweet, comme on dit, parce que notre ministre a retweeté un tweet du compte officiel du Tour de France, avec ce message que je vous livre, un dernier col, une dernière attaque, une dernière révérence tirée devant son public, seul en tête, emoji applaudissement. Les frissons pour la dernière étape vosgienne de Thibaut Pinot sur le Tour, cœur bleu. Un grand cœur, du talent, du panache et des souvenirs pour la vie. Drapeau français, Thibaut, n'arrêtez pas, nous dit, lui lance la ministre des Sports, effectivement, qui aimerait que Thibaut Pinot poursuive. Jérôme Pinot, notre consultant, a sorti l'extincteur tout de suite, hein, a bouché les espoirs. Il a dit c'est mort, moi je vous le dis. On va écouter Marc Madio quelques instants après son coureur. Il était cette fois au micro d'Arnaud Souk, le patron de la FDJ, évidemment très ému lui aussi.
Chance de rencontrer des grands coureurs qui sont aussi des grandes personnes. Quand on arrive au bout du chemin, on se rappelle qui est l'homme derrière le champion. Et je souhaite à tous mes confrères de connaître des Thibaut Pinot.
Je n'ai pas été surpris.
Il n'y a que lui qui peut susciter ça.
Il n'y a que lui qui peut faire ça. Voilà.
Ça vous a mis les poils quand même?
Plus que les poils. Ah, c'est quand même un coureur à part. Hein. On a souvent dit que c'était un coureur fragile, qui n'avait pas de mental, ici et ça. J'espère que tous, vous, nous, le public, on se souviendra qu'il avait aussi du tempérament en certaines circonstances, et notamment aujourd'hui.
Alors Marc Madiot, lui non plus, hein, il n'a pas peur de fendre l'armure. Messieurs, Marc Madiot, Thibaut Pinot, ils seront à jamais liés quand même. Peut-être plus que... c'est vraiment un binôme coureur-patron d'équipe qu'on n'oubliera pas. Quoi.
Je pense que la journée a été plus dure pour Marc Madiot que pour Thibaut Pinot. Vraiment, il était dans un état, Marc Madiot, et dès le départ, puisqu'il pleure au micro, je crois que c'est Arnaud Souk, hein, qui lui tend le micro, et déjà il est en larmes, on est le matin. Donc il a vécu une journée, il avait une tête, un visage, c'était... il faisait peur. D'ailleurs, même Laurent Jalabert lui a dit « Mais personne n'est mort, ressaisis-toi en quelque sorte. » Non, il était vraiment dans un état. Et moi, ce qui me... pour aller plus loin que le sport et qu'une étape comme cela, etc., ce qui me touche le plus, c'est leur relation, en fait. C'est cette limite, cette filiation qu'il y a entre ce directeur sportif et son coureur. Même si Jérôme Pinot nous a dit hier, moi, il me l'apprend, peut-être pas Pierre, mais que le coureur avec lequel il était le plus proche, c'était Arnaud Démare, plus que Thibaut Pinot. Donc moi, j'apprends ça. Mais c'est... Moi, j'ai critiqué plusieurs fois Marc Madiot ici. Mais ça, ce qu'il donne aux coureurs, ce qu'il leur apporte, comment il les protège, moi, j'aime cette relation, tout ce qu'il lui donne, tout ce qu'il lui rende, quand il déclare que c'est limite leur deuxième père. Moi, je trouve que le plus bel hommage pour un directeur, pour un patron d'une équipe, c'est ça, en fait.
Jérôme qui nous a dit qu'il regrettait de ne jamais avoir couru pour Marc Madiot, qu'il aurait beaucoup aimé l'avoir comme patron. Pierrot ?
Juste la relation Marc Madiot-Thibaut Pinot, elle est assez complexe parce qu'en fait, Marc Madiot l'a dit à de nombreuses reprises, ça n'est pas mon ami, ça n'est pas mon fils. Et ils ont une relation qui est imprégnée par le respect des qualités de l'un et de l'autre, et par aussi un destin commun qu'ils ont partagé. Mais ce qui est curieux, c'est que Marc Madiot va tenir ce discours, et elle l'a tenu pendant quasiment 10 ans, parce qu'il a voulu créer une distance, peut-être pour pas trop souffrir, et qu'hier, comme tu l'as dit Ludovic, il a pleuré toute la journée. C'est-à-dire qu'il a pleuré au matin, et pas seulement au micro d'Arnaud Souk, c'est-à-dire que chaque fois qu'on lui tendait un micro, ça repartait, et c'est pas, connaissant l'animal, c'est pas du fake, hein, c'est pas du chiquet. Marc Madiot, c'est pas un acteur. Dans la voiture. Quand il arrive dans le virage, parce que l'image est formidable, dans le virage Thibaut Pinot, hein, baptisé comme ça pour l'occasion, son frère Julien descend de la voiture, craque un fumier, saute avec les supporters, et tout le long, Madiot, il chiale sur le volant, quoi. C'est exceptionnel. Ils repartent, bon voilà, ils rattrapent le fil de la course. Et ce qui est formidable aussi, c'est que Thibaut Pinot et Marc Madiot ont une relation qui s'est un peu rafraîchie ces dernières années, notamment après l'année 2020, où Thibaut Pinot avait dit à Marc qu'il ne souhaitait plus faire le Tour de France en tant que leader. Il y avait eu une négociation qui s'était installée. À l'époque, RMC en avait fait l'écho, notamment à travers Arnaud Souk, sur le fait que cette discussion ne s'était pas très bien passée. Parce que, d'accord, il ne voulait plus être leader, mais il avait le salaire d'un leader. Et donc, c'est difficile de dire au coureur le mieux payé de sa formation, tu veux plus faire le Tour de France, c'est pas grave, on va s'arranger sans toi. Et ça avait peut-être abîmé un tout petit peu la relation qu'ils pouvaient avoir. Heureusement, la fin fait que tout le monde va se rapprocher. Je pense en tout cas qu'il y aura plus d'antagonisme entre les deux, c'est impossible.
Ouais, parce qu'on parlait du Pinot Day, mais c'était également le Madiot Day hier aussi. Tout le monde l'encourageait. Tu parlais, Pierre, de ces images. C'est vrai que cette image de Marc Madiot dans la voiture qui traverse comme ça le virage Pinot, c'est une des plus fortes de ce Tour de France. Elle est quasiment aussi forte que Thibaut Pinot qui, lui, passe en tête dans ce virage-là. C'était juste incroyable. C'est une relation père-fils tumultueuse, si on peut l'appeler comme ça, même s'il ne veut pas ce terme-là, Marc Madiot. Mais c'est comme ça qu'on l'a ressenti hier, parce que ces larmes qui ont duré toute la journée, cette fatigue psychologique d'avoir ça, d'avoir cette émotion aussi tout le reste de la journée, et surtout qu'il a dû y croire lui aussi, on y a tous cru, à la victoire de Thibaut Pinot, donc c'est encore, ça renforce encore plus ce qui s'est passé hier.
Quand on lui demande ses coureurs, les coureurs avec qui il a eu les plus fortes relations, il cite jamais Thibaut Pinot, Marc Madiot cite Bradley McGee. Je l'ignorais totalement, mais ici Bradley McGee, Arnaud Démare, et d'ailleurs il le dit en interview juste hier, il dit qu'il espère qu'ils redeviendront amis après le fait que malheureusement il n'ait pas de contrat à lui proposer parce qu'il n'a pas de sous à lui donner et qu'il ne l'a pas pris sur le Tour de France parce qu'il avait tout misé sur le classement général. Et puis il ne cite pas, mais je me rappelle des larmes de Marc Madiot suite à une gamelle de Frédéric Guédon. Il aurait dû gagner une étape du Tour de France, il chute dans l'avant-dernier virage à 350 mètres de la ligne, et à l'arrivée, il pleure comme un gosse parce qu'il dit qu'il méritait. Il méritait de gagner, et c'est aussi ça, Marc, c'est la passion qui l'anime avant les résultats.
Marc Madiot qui va devoir, on le disait hier, se réinventer un petit peu, enfin trouver une nouvelle orientation, un nouvel objectif avec sa FDJ, parce que tu perds Demar et Pinot, qui c'est quand même les piliers de son équipe de ces dernières années.
Après le départ d'Arthur Vichot, c'était les trois grands leaders de sa formation. Après, il a une chance incroyable, c'est que Marc Madiot a un temps d'avance, il a la continentale la plus solide depuis 2 ans et il a 2 prodiges, on l'espère en tout cas, avec Martinez et Grégoire, qui sont 2 phénomènes. Ils seront sur la Vuelta.
Sur la Vuelta, ouais.
Et c'est là où on va pouvoir voir si la relève de Thibaut Pinot est déjà assurée, ce dont je ne doute pas.
Ah, j'ai cru que t'allais...
On a 2 phénomènes. Hein. Il va falloir les surveiller, il ne faut pas les brûler, tout ça. On connaît l'histoire et on connaît la chanson. Mais c'est 2 phénomènes.
Alors, avait-il prévu son coup? Difficile à dire, puisque en plus, il y a eu très longtemps une incertitude sur la présence de Thibaut Pinot dans cette édition 2023. Mais bon, cette avant-dernière étape sur les terres de Thibaut Pinot, ça tombait quand même à pic pour conclure cette édition du Tour de France. Lorsque je dis « il », je parle de Christian Prudhomme, le patron du Tour, interrogé au micro de RMC hier. Évidemment, Pinot va lui manquer à lui aussi.
Ça a été 100 km d'émotion. Ce qui était très frappant, c'est dans cette étape, avec une densité de spectateurs au bord des routes hyper impressionnante, des spectateurs qui faisaient attention à 99%, c'était d'entendre d'un côté de la route Pinot, 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 et de l'autre côté Thibaut, Thibaut, Thibaut. Quand on est avec des échappés, on entend plusieurs noms souvent. Et là, même quand il n'était pas seul, c'était une ovation, c'était un tunnel de bruit très très impressionnant. Thibaut Pinot, c'est un champion qui a bien sûr un palmarès, mais c'est un coureur qui transmet des émotions. Il est sorti avec la plus belle des révérences. Bien sûr que chacun a dû se dire à un moment, et s'il gagnait, je pense que l'échappé, n'ayant jamais eu plus d'une minute trente d'avance, il savait très bien qu'il ne pourrait pas gagner. En revanche, être seul en tête du Tour, pour sa sortie, pour sa dernière année professionnelle, son dernier Tour de France, ça a été un hommage absolument phénoménal. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, ça fait venir encore plus de gens. C'était très, très impressionnant, oui, sans aucun doute.
Voilà, une des figures effectivement du Tour de France quand on est le patron de la course. On pense aussi à ces choses-là. Messieurs, finalement, cette dernière étape, est-ce qu'elle n'est pas finalement à l'image de la carrière de Pinot, finalement flamboyante mais un peu inaboutie?
Ouais, c'est ça. Pour moi, cette étape-là, c'est le condensé du Tour 2019. C'est-à-dire on y a cru jusqu'au bout et finalement, on a voulu y croire sans trop y croire non plus. On en rêvait, mais c'était trop compliqué pour lui, évidemment, quand t'as deux monstres derrière qui attaquent, qui reprennent 30 secondes en même pas 100 mètres. Tu te dis, c'est fini. Mais en fait, on y a tellement cru avec lui, on voulait le voir devant. Il a peut-être un peu trop donné, il a peut-être attaqué trop tôt, mais finalement, c'est du Thibaut Pinot comme on l'aime. Il a été vrai jusqu'au bout. Et il fait 7e quand même de cette étape qui a résultat
avec que du poids lourd, effectivement, à l'arrivée. T'as pas l'air tout à fait d'accord, Ludo?
Non, je partage pas. Je l'ai dit hier, d'ailleurs. Je partage pas cet avis parce que Thibaut Pinot, ça a souvent été des éléments extérieurs et notamment des blessures plus ou moins graves et plus ou moins explicables. Hier, c'est la course. Hier, il fait une étape. D'ailleurs, il fait un tour, moi, je trouve fantastique, parce qu'il fait 11e et il a fait le Giro. Moi, je trouve que sportivement, et ça occulte un peu ce qu'il a fait hier, le côté sportif du tour de Thibaut Pinot, qui fait un très grand tour. Alors, parce qu'il est libéré, parce qu'il sait que c'est son dernier tour, et donc il se lâche. Et en plus, il a couru aussi pour David Gaudu, donc il a d'autant plus de mérite. Mais hier, c'est pas ça. Hier, il n'y a aucun élément extérieur. Hier, c'est la course. Il fait un numéro devant. Mais moi, je pense qu'il y croit, et on y croit tous. On était comme des fous. Moi, je pensais qu'il pouvait aller au bout. Malheureusement, dans ce tour, on l'a dit, quand tu veux gagner une étape, il faut un peu de réussite. Il faut d'autres éléments qui font que... À partir du moment où Pogacar avait retrouvé ses jambes et qu'il voulait gagner cette étape, malheureusement, c'était fini pour Thibaut Pinot. Mais c'est juste la course, ça. Mais ce qu'a fait Thibaut, c'était magnifique. Voilà, je ne mets même pas les supporters. Sportivement, le fait d'attaquer, il avait des jambes de fou là, dans le col précédent. Quand il largue tout le monde, pardon, il y a Pidcock derrière, il n'existe pas. Il part comme ça et personne ne peut aller le chercher. C'était beau. C'était beau.
C'était grand même, j'ai envie de dire, Pierrot.
Tu as fait le parallèle avec cette étape qui est à l'image de sa carrière. Ce matin, j'ai eu la chance de pouvoir écrire la chronique dans les grandes gueules du sport à ce sujet-là. Et c'est exactement ce que j'ai dit, en fait. Et que c'était à l'image de la carrière de Pinot, chaotique, furieuse, pleine de promesses et de rêves, mais elle se termine au boulevard des illusions perdues. Et c'est exactement ça. C'est qu'on a tellement cru que c'était possible, et Ludo a raison sur le fait que ça dépendait d'éléments qui n'étaient pas dans ses jambes, en fait. Peut-être que s'il avec des si, on aurait pu faire des tas de choses de la carrière de Thibaut Pinot.
Couper du bois
notamment. Mais s'il n'avait pas fait le Giro, je pense qu'il allait au bout aujourd'hui.
Pardon.
Non, mais voilà, il n'aurait pas eu à faire 3 semaines d'efforts en Italie. Je pense qu'il gagnait. Il gagnait hier. C'est aussi les résultats qu'il a eu sur le Giro lui ont permis d'être sur le Tour de France. Donc on ne peut pas cracher sur ce qu'il a fait. Sans le Giro, il n'aurait pas fait cette grande boucle. Et sans les déclarations de fin de carrière en décembre, il n'aurait pas fait le Tour de France non plus. Parce que Marc Badiou m'a assuré du contraire, mais je suis certain que la Groupama et la FDJ auraient vu d'un très mauvais œil l'absence du chouchou, de l'idole, du prodige Pinot sur les routes du Tour de France. Il se l'est gagné, sa présence. Il se l'est justifié hier. Mérité. Parce que, voilà, il se l'est mérité et il se l'est justifié. Mais c'est vrai qu'on aurait tellement voulu y croire. Ça s'est joué à 3 relais de Félix Gall, une attaque de Pogacar qui aurait duré 300 mètres de moins, se regarder 15 secondes de plus entre les deux cadors. Peut-être que
si c'était trop fort derrière. Voilà, c'est ce qu'on dit depuis le début.
Oui,
les deux là, ils sont trop forts.
On s'est quand même tous dit, ils ne peuvent pas lui laisser la victoire, ils la veulent là, ou celle-là
parce
aussi.
Il avait des grandes jambes.
C'est ça, tout le monde.
C'est important.
Et on a vibré, évidemment, dans cette avant-dernière étape, Pinot qui va pouvoir savourer l'arrivée à Paris. Effectivement, il sera très certainement très entouré, très sollicité aujourd'hui. Et lui, il n'est pas concerné par la gagne comme la plupart des coureurs du peloton. Il va pouvoir savourer l'arrivée de son dernier tour à Paris. 14h36, on va se quitter quelques instants. Le Prologue RMC jusqu'à 16h avec Johan Bredov, Ludovic Duchesne et Pierre Amiche. En attendant que Jérôme Pinot, notre consultant, nous rejoigne à partir de 15h. Dans un instant, on attache les rétroviseurs et on se retourne déjà sur ce Tour de France 2023. On va faire les bilans, les tops, les flops, les déceptions. Et puis peut-être même qu'on se projettera sur l'année prochaine. Comment battre Jonas Vingegaard, avec qui et comment. A tout de suite dans le Prologue RMC.
RMC 100% route, le Prologue.
14h38 dans le dernier Prologue RMC de ce Tour de France 2023 sur la version digitale de RMC consacrée à cette 110e édition. On vous a offert 8 heures de direct chaque jour. On a été ravis de partager ça avec vous. Les auditeurs, c'est un vrai succès. Vous avez adhéré à nos idées, à nos projets. On remercie la direction de RMC et on en redemande. On a hâte de revivre ça avec vous. En compagnie de Ludovic Duchesne, Johan Bredov, Pierre Amiche, les journalistes de la rédaction RMC Sport, Jérôme Pinot qui est en chasse-patate, qui nous retrouvera à partir de 15h. On fait le bilan de ce Tour de France. On prend temps aujourd'hui, en tout cas calmement. J'ai demandé à nos journalistes de la rédaction de bosser un peu, une fois n'est pas coutume. Pierrot, Ludo, Yo et Pinot. Oui, je voulais que ça rime, effectivement. C'est la dernière, je me suis lâché. Vos tops et vos flops de cette...
Baudelaire.
Châteaubriand, ils sont nombreux. Vos tops et vos flops de cette 110e édition. Honneur à notre maillot blanc, Johan Bredov. Vous l'avez trouvé comment, Bredov, dans ce tour, sur le Tour de France ? Révélation, non ?
Arthur Robert a réussi à l'impossible, il m'a déstabilisé. Excellent, Bredov, excellent. On l'a connu tout petit, il commentait en cabine, il était un peu moyen, voilà. Mais là, regardez ça, il a décollé sur l'autoroute du succès, de la célébrité. On demande des autographes dans la rue. C'est vous qui faites la roue libre et tout. Incroyable. Énorme, Bredov, bravo.
Bravo, on s'est régalé avec toi, Johan. Tu disais, non, maillot blanc, tu es plus.
Trop vieux. Je suis trop vieux, je vais avoir 29 ans là.
29 ans, tout de même.
Par rapport à Guy, c'est toujours pareil.
Tu fais vachement moins, c'est dingue.
Ouais, c'est vrai.
C'est vrai que
Si je me rase, je fais 19.
Un vrai genou. Johan, t'es top flop, j'ai aimé, j'ai pas aimé, sur l'ensemble de ce Tour de France. Ludo, Pierrot, évidemment, à chaque fois, on réagit, on échange, on partage.
Bon, je ne vais pas être très original avec mon j'ai aimé, mais c'était dès les premiers jours de ce Tour de France, c'est Victor l'a fait. Déjà, pas Victor l'a fait lors de la première étape.
Si on n'a pas aimé, l'a fait,
oui,
évidemment.
C'est ça, sinon on va être...
N'en dégoûtez pas les autres.
Voyons, exactement, la première étape, il a été énorme, il a suivi les deux cadors, il s'est même permis de les attaquer. Et surtout, la deuxième étape, donc avec cette victoire, on a vibré, et évidemment, on l'a suivi sur RMC.
Victor Lafay qui attaque juste sous la flamme rouge. Est-ce que ça va se regarder derrière ou est-ce que Wout Van Aert va encore essayer d'aller le chercher? Ça a l'air de se regarder un petit peu. Il a pris une trentaine de mètres d'avance et c'est pas mal ça pour Victor Lafay. Oh, attention, est-ce qu'il n'y aurait pas la première victoire française à venir? Wout Van Aert n'est pas, en tout cas pas à la chasse pour le moment. Il reste 600 mètres. Le virage à gauche, celui qui est dangereux, il l'a bien pris, Victor Lafay. Alors attention, c'est des grandes lignes droites maintenant. Est-ce qu'on va essayer d'aller chercher Victor Lafay? C'est pas Wout Van Aert hein, qui est à la chasse pour le moment.
Kelderman.
C'est Kelderman. Kelderman qui regarde
mètres.
Derrière lui.
400 mètres
parce
de la ligne
d'arrivée. Il n'a pas les jambes.
Il a
pas les jambes.
Ouais,
il a fait un joli petit trot. Victor l'a fait. Il a été très malin. Sous la flamme rouge. Allez, le coureur de l'équipe de Cofidis. Et s'il y avait aussi un peu plus à aller chercher pour Victor l'a fait au classement général.
Va, Van Aert qui se lance.
Wout Van Aert, il n'y va pas pour l'instant. Il n'y va pas, Wout Van Aert. Il n'est pas lancé. Ça y est, il y va, Wout Van Aert.
130 mètres. 130 mètres. Il va se faire rouler.
Victor l'a fait. Victor l'a fait. Ou Pogacar. Ou Wout Van Aert. Victor l'a fait. La victoire française ici à Saint-Sébastien. Victor l'a fait qui s'impose. On l'attendait, la victoire française. Quel gros numéro de Victor l'a fait. Vainqueur à Saint-Sébastien. Il allait le faire. Il l'a fait.
Oh, c'est incroyable quand même. On revit ce moment. C'était dingue cette attaque-là sous la flamme rouge à 700 mètres. Voilà, il attaque Victor Lafay. Il piège tout le monde parce que dans le peloton, il y avait tous les cadors. Hein. Ah, il piège des Van Aert, il piège des Pogacar, il piège des Vingegaard. Il s'en fiche, il est parti. Il réfléchit pas sur le vélo et il allait remporter la plus belle victoire de sa carrière.
Et la veille, ce qu'il fait la veille, moi, m'a peut-être même plus impressionné.
Ouais, rappelle-nous.
C'est le seul à suivre Vingegaard et Pogacar déjà échappés. Et on a compris que personne ne pouvait les suivre. Et tout d'un coup, on voit un mec arriver. Et sincèrement, on sait pas qui.
C'est qui ce type?
Et même, je me mets à la place des journalistes internationaux qui viennent de tous les pays. Ils voient un garé. C'est qui ce gars? Et c'est Victor Lafay. Donc, après, quand même, moi, ce qui m'a beaucoup déçu, c'est qu'il a totalement disparu du tour juste après. Et je trouve que c'est dommage, même si Cédric Vasseur, qui a été à notre antenne, nous a promis le contraire, etc. Il a disparu. Il a une fois essayé d'attaquer. Ça n'a pas duré longtemps. Et malheureusement, il est tombé, il a abandonné. Mais ça, c'est pas très. Ça peut arriver. Mais c'est le fait qu'il disparaisse comme ça après ces deux premières étapes. Je trouve que ça lui correspond trop bien, malheureusement.
Bah, il faut rappeler que Victor Lafay n'a fini aucun grand tour. Il en a disputé trois et il a abandonné les trois. C'est pas un coureur sur des courses de trois semaines. Après, peut-être que cette première semaine au Pays Basque, en tout cas ces trois premiers jours au Pays Basque, vont servir de déclic pour Victor Lafay et qu'aujourd'hui, il sait qu'il a dans les jambes les moyens de lutter au moins sur un jour avec les plus grands. Et dans la mesure où il est en fin de contrat chez Cofidis et qu'il a probablement, on n'a pas le droit de le dire, mais signé ailleurs, notamment dans une équipe britannique, c'est en tout cas ce qui se murmure dans le peloton depuis quelques semaines.
Il serait
peut-être titulaire d'une licence chez Ineos la saison prochaine. Si c'est le cas, il va apprendre aux côtés de certains cadors. Hein. Ouais. Je pense que des Kwiatkowski ou même des Tao Gegenhardt, dans ce registre pur qui est celui de puncher capable de tenir une semaine.
Il va prendre des coups de pied dans les fesses. Ouais.
Peut-être, et peut-être aussi petite marge de progression. Il a entre guillemets que 27 ans. Donc,
c'est quoi le plafond pour Victor Lafay? Il peut grimper avec les meilleurs, il peut puncher avec les meilleurs, si je peux utiliser cette expression.
Tu
parles un petit peu de son brevet, parce que justement, on s'est beaucoup intéressé à lui. On a dit profil atypique, caractère atypique, un mec qui détonne dans le peloton, qui a façon d'appréhender la course et de se préparer pour la course un petit peu atypique. C'est quoi son...
C'est un puncher. Sixième de la flèche. Ça prouve quand même que sur une montée sèche et très difficile comme le mur de Huy, il est capable d'exister parmi les meilleurs. C'est pas forcément un grimpeur patenté. Dès que la pente est trop, dès que la montée est trop longue, et il n'existe pas. Et d'ailleurs, il y avait eu un petit espoir après ses trois premiers jours au Pays Basque. Cédric Vasseur avait dit peut-être que sur un malentendu, il pourrait lutter, servir de déclic sur le fait que en haute montagne, en fait, pas du tout. Je pense que déjà, il a pas envie de se faire mal sur 45 minutes parce qu'un col long, c'est très difficile. Après, il est capable de fulgurance, il est capable d'explosivité. Je pense qu'il risque, s'il est bien géré, de se rabattre sur des classiques printanières. Ce serait, a priori, le profil qui lui correspondrait le mieux. Je sais
une
pas
sorte
ce que vous
de, une sorte de...
Valverde.
Pour les Français.
En Julien, français, Viermoz.
Ouais, Viermoz plutôt. Ouais.
Voilà.
Ouais, j'allais dire à la Philippe, je dis une bêtise là.
Non, c'est un peu ça. Genre moins fort.
Ouais, et après, peut-être espérer aussi qu'il puisse briller sur des courses d'une semaine, même si ce vœu peut-être 20. Mais moi, j'ai un souvenir. J'avais commenté cette course, c'était autre part dans un autre endroit, mais c'était le Tour de Norvège où jusqu'au bout il est en capacité de gagner. Il est vraiment il est bien, il est dans les trois premiers, tout le monde pense même qu'il va le faire, et il explose dans la dernière étape. Bon, c'est Leknesun qui prend le classement général, mais ils étaient 4, 5, 6. Mais ce jour-là, il avait complètement craqué, et c'était avant tout psychologique. Donc je pense que oui, il a des vraies limites, et je pense que chez Ineos, il peut franchir plusieurs paliers, et là, ça peut être intéressant.
Effectivement, on a hâte de le voir, effectivement, j'allais dire l'étage supérieur, c'est pas très gentil pour la Cofidis, mais vous rappeliez avec qui, de qui il serait entouré chez là-bas, ce serait effectivement.
Mais on a un exemple criant, un coureur qui passe de la Cofidis à une autre équipe, on va en parler tout à l'heure, mais c'est Christophe Laporte qui a passé un cap en allant chez la Jumbo.
C'est sûr.
Voilà, forcément, il va devenir un autre coureur, Victor Lafay, il va avoir d'autres responsabilités. Voilà, on attend beaucoup de lui maintenant avec ses deux premières étapes qu'il a fait. Il a réussi à suivre les cadors, même si on a très bien vu, notamment lors de la première étape, que si Pogacar et Vingegaard accélèrent, il n'aurait pas pu suivre. Victor l'a fait. Mais on a des espoirs en lui.
Rappelle-toi, quand il est rejoint,
il les a pas lâchés. Il les a pas lâchés, ils sont vite revenus. Mais on a des espoirs et c'est normal pour lui.
Christophe Laporte, dont tu prends la roue tout à l'heure dans ta chronique. Johan, tu poursuis tes « J'ai aimé » dans ce Tour de France 2023.
Mais j'ai aimé le... Bon, le Tour des Bahreïn. Le Tour des Bahreïn, j'en ai un petit peu parlé hier, mais trois victoires d'étape. Et évidemment, cet hommage, ce souvenir de Gino Madère. Le Tour, il est parfaitement réussi pour cette équipe. C'est peut-être l'équipe qui a le plus réussi son Tour. Évidemment, il y a la Jumbo avec cette victoire finale de Jonas Vingegaard. Mais on attendait énormément de la Bahreïn, en fait. Parce que, voilà, évidemment, il y a ce souvenir. Et ils étaient ultra motivés. C'était presque surnaturel. Ils sont allés... Ils ont dépassé leur capacité. Peyo Bilbao qui finit dans le top 6.
Les 6, ouais.
Voilà, 6e du Tour de France. On attendait plus de Mikel Landa, certes, mais 3 victoires d'étape avec des Mohorič, des Woodpools et donc des Peyo Bilbao, en larmes.
C'est le tour de sa vie, Bilbao.
Voilà, c'est le tour de sa vie, sa portée de chez lui au Pays Basque. Donc voilà, ce tour, il est parfait. J'ai adoré cette équipe. Donc
effectivement, très, très, très forte équipe, hein, avec une belle densité de coureurs. Troisième, j'ai aimé, Johan.
Ouais, il y a eu le Pinot Day, mais je vais surtout retenir les deux premières semaines de course. Les deux premières semaines de course qui ont été incroyables au niveau du suspense. Ça se jouait à une dizaine de secondes entre Pogacar et Vingegaard. Vingegaard qui reprend une minute trente même à Poggi. On se dit, voilà, le tour est plié au bout d'une semaine. Et non, Poggi, dès le lendemain, qui reprend 24 secondes et qui a grappillé jusqu'à ce fameux contre-la-montre. Mais voilà, ces deux premières semaines de course ont été juste énormes au niveau du suspense.
On a tous aimé, je crois, messieurs, non?
Ouais. Ah bah oui, le profil, le parcours, le début, c'est difficile de ne pas aimer.
Non, ils ont fait fort. Je trouve que ça s'améliore. Tous ces profils, toutes ces étapes où finalement on ne s'ennuie pas. C'est de mieux en mieux, j'ai l'impression. Et on va dans des endroits qu'on ne connaissait pas encore de la France. Et c'est encore arrivé cette année à plusieurs reprises. Et c'est vrai que, par exemple, on voit le col de la Lauze qui est apparu en 2020. Ouais. Ça veut dire qu'il y a encore des endroits qui sont inexplorés, et je pense que oui, c'est tout bon pour le spectacle. Et bon, et on est gâté parce qu'on a deux mecs qui sont hors du commun, donc c'est un plus aussi pour le Tour. Ils ont de la chance de tomber sur cette génération, et en plus, il y aura Evenepoel l'année prochaine.
L'exploitation des massifs de moyenne montagne, comme on dit, effectivement, les organisateurs qui vont partout. Et bon, le problème, c'est qu'il n'y a plus moyen de taper un roupillon devant les étapes du Tour de France. Il se passe tous les jours quelque chose.
Il y a des images, apparemment, certains membres de l'équipe ont piqué un petit roupillon même au moment de la montée de Thibaut Pinot. Tout est possible, c'est une question de détermination, Simon.
Non,
si jamais tu as envie de dormir, tu dors.
Je crois que, je crois que la personne dont tu parles s'est assoupie quelques instants alors que Pinot avait l'étape perdue, je crois. Hein. C'était déjà perdu pour Thibaut.
Je ne sais pas, je ne le connais pas.
Enquête à suivre.
Juste la conséquence aussi de ces départs souvent très nerveux, c'est qu'aussi on va priver une partie de la France de certaines étapes. Je pense notamment au Grand Ouest qui risque de ne plus voir le Tour passer souvent parce qu'il n'y a aucun massif. Il y a, mis à part proposer des étapes pour les sprinteurs, finalement aucune autre alternative.
Ouais, alors
donc, j'ai une pensée pour la Charente-Maritime par exemple, au hasard, qui ne verra pas le Tour.
Il y a des étapes qui peuvent se prêter aux bordures, aux fameuses
bordures. Disons que la bordure est une hypothèse quand la montée est une certitude. Hein. Après, on ne déplacera pas la montagne.
Alors que
le vent, il n'y en a pas, c'est pas toi qui choisis, ça dépend des marées. Bon, c'est vraiment un coup de bol énorme pour te dire, ah là, je le sens, ah, ça va être un gros coef. Là,
c'est vrai d'ailleurs, c'est l'an dernier, je crois, on était au Danemark, il y avait cette étape sur
Zélande.
Le pont.
Ça devait être la boucherie, il n'y a pas eu un peu de vent, tant pis.
Le peloton qui s'est promené, effectivement.
Il y a quand même eu un événement, c'était une gamelle à l'entrée du groupe, une hésitation, et je ne sais plus qui était tombé, un leader, je me demande si c'était pas déjà Mikel Landa. Je vais vérifier la chute à Zélande.
14h50 dans le prologue, on fait les j'ai aimé et j'ai pas aimé de notre équipe sur ce Tour de France 2023. Voilà pour les j'ai aimé de Johan Bredov. tes « je n'ai pas aimé les, », les flops, hein, tout simplement.
J'ai parlé des deux premières semaines et du coup, logiquement, je n'ai pas aimé la troisième semaine parce
Quelle logique, formidable. Tout le
suspense a été très vite, trop vite tué dès le contre-la-montre, dès le premier jour de cette troisième semaine. Donc forcément, ça a été compliqué. On s'attendait à un énorme combat sur le col de la Lauze. Il n'a pas eu lieu. Ça a été une étape où tout était déterminé déjà. Le vainqueur d'étape, Félix Gall, on le savait qu'il allait gagner parce qu'il est parti très tôt. Il était bien aidé par Ben O'Connor. Et ensuite, Pogacar qui craque et Vingegaard qui s'en va. Et j'ai pas aimé aussi du coup le Markstein, du coup, parce que là aussi, on pouvait s'attendre à un combat énorme entre les deux s'ils se tenaient à coup de seconde. Mais comme il y avait 7 minutes d'avance, c'était plus compliqué. J'ai pas aimé également l'attitude et la com' de la Jumbo. parce que la com est très particulière quand même. Je repense à ce contre-la-montre avec Vingegaard qui dit qu'il ne comprend pas son capteur, il pensait qu'il était cassé. À Van Aert qui dit qu'il est le premier des hommes normaux,
des non-mutants.
On parle de Wout van Aert quand même. Ouais. Donc voilà, j'ai pas aimé cette com.
Il dit ça à l'arrivée, effectivement, parce qu'il est troisième.
Et il est troisième.
Alors ça, j'y reviendrai parce que ça fait partie des choses qui m'énervent. Donc ça exactement.
Mais ça
m'énerve parce que voilà, moi c'est fait partie des choses, mais je vais pas dévoiler ce que je vais dire après. Mais quand Van Aert dit ça, est-ce que vous croyez sincèrement que derrière il y a des sous-entendus dans ce qu'il dit?
Non, mais c'est une accumulation.
Non, mais
c'est une accumulation de Jumbo.
Explique-toi.
T'es journaliste, donc ça a été le cas de beaucoup de journalistes qui après. Dès qu'il se passait un truc, demandait à n'importe quel coureur, à n'importe quel spectateur, à n'importe quel abruti qui était au bord d'une fenêtre, alors Vingegaard. Moi, ça m'énervait parce que quand Van Aert dit ça, il y a énormément de respect. Et le respect, il est pour les deux. Il est pour Pogacar, il est pour Vingegaard. Je pense que les coureurs ont un respect infini par rapport à ces deux-là. Ils savent qu'ils sont alors que c'est des champions, attention, et Van Aert, c'est un champion ultime à lui aussi. Mais ils savent que voilà, il y a les deux devant, et que quand ils ont décidé de faire la course, et notamment en montagne, il n'y a personne derrière. Ils l'ont vu sur les classiques avec Pogacar et sur les courses à étapes. Je crois que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un Dauphiné expédié de cette manière par un coureur. Donc c'était du respect. Il n'y avait pas du tout de sous-entendu. En tout cas, c'est ce que je pense. Et nous, je vais me mettre dedans. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit, t'as vu ce qu'il a dit, Van Aert? Oh la vache, t'as vu ce qu'il en pense? Mais pas du tout. Mais pas du tout. Je pense que dans son esprit, dans son vocabulaire, les gens normaux, c'était les coureurs de sa trempe, c'est-à-dire des grands champions, et qu'au-dessus, il y avait deux mecs qui étaient à un niveau qu'on n'a pas vu depuis 40 ans. C'est ça, je pense qu'il fallait comprendre, c'est ce qu'il voulait dire. Et d'ailleurs, le jour où il s'en va, il quitte le tour. La collade qu'il a avec Vingegaard, qui est franche, qui est belle, qui est vraiment et qui est totalement sincère. Il n'y a pas de sous-entendu, mais nous on en fait et ça j'aime pas.
Bon coup de gueule contre certains.
Contre Bredov.
Ça c'est normal.
Non, pas que, parce que Johan, il est représentatif de ce qu'on a entendu depuis plusieurs jours en fait, après le contre-la-montre.
D'accord. Johan, t'avais terminé pour les j'ai pas aimé?
Non, je peux en rajouter un, mais je pense qu'on va en parler. Et là, on est tous d'accord pour le coup, c'est l'attitude de Jasper Philipsen et des Alpecin, en fait, mais surtout de Jasper Philipsen. Et je vais prendre juste un exemple. Et il y a eu tous les sprints, les premiers sprints qu'il a remportés.
Quatre victoires d'étape sur le tour, indiscutablement le meilleur sprinter, mais qui s'agace un petit peu lorsqu'on essaie de lui voler le beefsteak dans le frigo.
Voilà, quoi. Moi je vais retenir cette attitude avec Pascal Enkhorn qui veut s'échapper. Il se met devant lui, il lui coupe la route, il lui dit non, mon coco, tu t'échappes pas, c'est pour moi aujourd'hui. Enkhorn qui l'écoute pas, qui va au bout, plus l'échapper va au bout.
Enkhorn qui n'est pas dans son équipe.
C'est un corps de la Lotto.
Il aurait été dans son équipe. Bon, ça aurait été un comportement trop bizarre, mais bon, pourquoi pas rappeler à l'ordre tes soldats en disant où tu vas, mais là, c'est pas du tout.
C'est
particulier.
Tu vas empêcher les autres de faire leur course en plus. Je comprends pas. Donc c'est l'attitude de Philipsen en général sur 3 semaines. On va voir ce qu'il va faire aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est très...
Quelque chose me dit qu'il est favori.
C'est très incompréhensible.
Il avait gagné l'an dernier sur les champs, en effet, Philipsen, après avoir gagné à Carcassonne. 14h55, on va donner la main à qui? Pierre Amiche. J'ai pas aimé. On commence, on s'interrompra évidemment quelques secondes pour rappeler aux auditeurs qu'il est 15h lorsqu'il sera 15h, hein, vous savez, c'est le principe de la radio. Mais du coup, on commence. J'ai aimé, j'ai pas aimé de ce Tour 2023, Pierrot.
Moi, ce que j'ai pas aimé, c'est malgré lui, mais ça m'a bousillé ma troisième semaine. C'est la défaillance de Tadej Pogacar. Et pour ceux qui ont loupé cet épisode terrible, je vous propose de le revivre.
Attention, Pogacar est en dernière position du groupe maillot jaune. Tadej Pogacar en difficulté dans ce col de la Loze, alors qu'on n'est pas du tout dans les pentes les plus difficiles du col de la Loze. Tadej Pogacar est en train de lâcher dans la tête, dans les cuisses également. Marc Soler est avec lui pour l'aider. C'est un nouveau tournant dans ce Tour de France 2023.
On en parlait hier soir, Cyril, on se disait comment va-t-il supporter, comment va-t-il digérer la contre-performance du contre-la-montre. Ce serait certainement très dur dans la tête, et on le voit aujourd'hui, il n'y a plus Tadej Pogacar, il n'y a plus, il est en train de perdre définitivement ce Tour de France.
Et j'avoue que c'est pas de la faute de Pogacar, il avait plus rien dans le moteur, il avait pris un énorme coup sur la tête parce que Vingegaard a écrasé le contre-la-montre.
On rappelle que la veille, il prend une 38 sur 22 km de contre-la-montre.
C'était trop difficile ce jour-là, mais ce qui m'a déçu, c'est que ça a vraiment cassé mon jouet, le Tour de France 2023. À partir de là, il n'y avait plus beaucoup d'intérêt à regarder. On savait qui allait gagner, on savait que Tadej Pogacar allait faire ce qu'il pouvait pour remporter une étape. Et c'est de la faute de personne, parce que c'est le principe même de la course. Mais je reconnais que ce côté m'a déplu, et ce qui est bête, parce que, comme je vous dis, c'est la faute de personne. Mmh. Mais ça m'a saoulé, quoi. J'avais envie de rêver. Jusqu'à samedi, qu'on s'emballe, qu'on s'enflamme.
Parce qu'on vivait un tour incroyable, voilà. Là, avec 10 secondes entre deux coureurs.
Ouais, c'était incroyable.
Et quel coureur, les deux, donc.
Non, mais ça va rester dans la légende, le I'm gone, I'm dead, qui dit à la radio Pogacar. Ouais, c'est incroyable. C'est Pogacar qui dit ça, quand même.
C'est vrai que.
Avec le maillot ouvert, là, vraiment en perdition, il perd plus de 5 minutes, je crois, sur Vingegaard.
5,35, je crois, le jour.
Et puis, ce qu'il a dit hier ou avant-hier sur Marc Soler. Il disait, ce qui m'a le moins plu dans le tour, c'est quand j'ai vu le regard inquiet de Marc Soler qui me regarde.
Tu te dis,
qu'est-ce qui se passe? Je roule plus vite que lui, c'est incroyable. Non, mais c'est un champion immense. On voulait avoir le suspense jusqu'au bout, jusqu'à la dernière étape, jusqu'à la dernière montée. Finalement, on l'a pas eu parce que Vingegaard était trop fort et Pogacar a lâché, tout simplement.
Et d'ailleurs, c'est ce qui m'inquiète un peu, et j'espère que l'année prochaine, on aura un Pogacar. Je ne veux pas dire au niveau, parce que ça serait difficile de dire ça.
Préparer,
mais en tout cas, à 100%. Voilà, à 100%. Pour que j'ai très envie de les voir tous les deux, tous les trois, même à 100%. Parce que ça fait quand même deux tours où ils craquent sur certaines étapes.
Pas pour les mêmes raisons.
Non.
J'espère, comme toi, que en fait, Pogacar est plus jeune et qu'il apprend. Il montre pas ses limites, parce que ça pourrait être une délecture.
Non, je crois qu'il a pas de limite, donc.
Voilà, mais ça pourrait être une délecture de dire il touche deux à ses limites sur un tour de trois semaines, c'est trop dur pour lui.
Je crois pas.
Je crois qu'il apprend. Il a fait une erreur de tactique l'année dernière, et cette année il a subi une préparation.
À vous, Pierre, quand même, et je sais à combien tu le considères. Avoue quand même que cette façon de courir, je ne suis pas sûr qu'il la perde un jour. D'ailleurs, on a eu ce débat tu souhaitais qu'il continue de courir de la même manière. Mais ça lui coûte cher quand même à certains moments de la course, parce qu'on a un vrai grand spécialiste qui est Vingegaard. Et attention, il y aura Evenepoel, ça va encore apporter un petit truc en plus. Mais moi, j'espère que l'année prochaine, il va y être, parce que ça fait comme deux tours où il craque sur deux étapes pour des raisons différentes. Ouais. Et du coup, ça l'empêche d'aller jusqu'au bout de ses rêves, quoi.
On se posera la question tout à l'heure, comment battre Vingegaard et avec qui, parce qu'on s'est suffisamment interrogé sur la composition du UAE, leur façon de courir. Et il n'est pas interdit de penser que tout Pogacar qu'il est, il puisse encore apprendre de ses erreurs, apprendre et prendre de l'expérience.
Ouais, bien sûr, il est tout sauf bête. Hein.
C'est ça qui est terrifiant, donc, c'est qu'il est, il a quoi, 24 ans, Pogacar. C'est fou. On a l'impression de le voir depuis tant d'années, et aussi dominateur. 14h59. Le prologue RMC, le dernier de ce Tour de France 2023. On s'interrompt quelques instants. On va accueillir Jérôme Pinot qui a fini son chasse-patate. Il rejoint le groupe de tête.
Il est de retour dans le peloton.
Notre consultant, il est de retour dans le peloton. Et vous, les auditeurs, vous êtes toujours là. On est ensemble en direct jusqu'à 16h. On revient tout de suite sur le RMC Support Digital.
RMC 100% route, le prologue.